Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 14e. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Et bonjour notre invité Nicolas Saint-Clic.
Bonjour Jean-Claude, je ne suis pas distrait par mon portable, vous voyez, je vous regarde.
Oui, voilà, ça y est.
Il n'y a pas que les enfants. Hein.
Monsieur Saint-Cluc a vendu la mèche.
Oui.
Michel Santo était en train déjà d'essayer de faire du réseau social.
Oh,
ça tombe bien, ça tombe bien parce que Michel, ça fait partie de ton sommaire.
Exactement.
Alors que je cite, alors, fureur morale idéologique et réseaux sociaux, justement. Mm-hmm. Ensuite, alors, un écho de campagne pour Narbonne et de 8. Et puis, je cite également la question que tu poses, et si Bertrand Malquier n'était plus candidat à la présidence du Grand Narbonne, parce que tu avais laissé entendre qu'il pourrait l'être.
Ah, pas laissé entendre, j'avais repris simplement de ses déclarations.
Exactement. Ce qu'il avait lui-même
confirmé
dit
clairement, ici, d'ailleurs.
Il avait au moins été clair sur ce sujet, ce qui n'est pas toujours le cas avec les...
avec ceux qui aujourd'hui candidatent de manière clandestine,
oui.
Disons.
Alors, fureur morale et idéologique et réseaux sociaux, oui, effectivement, bon, ça part dans tous les sens et c'est pas nouveau, hélas.
Oui, mais alors, on vit quand même depuis quelques mois, sinon depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron, une situation sociale, morale, idéologique tout à fait singulière. Je n'ai pas le souvenir, pourtant, vu mon âge, je ne donnerai pas ici, dans ma courte histoire politique, je n'ai jamais fait assister à un tel déferlement de haine, déferlement de comportement, y compris dans les mouvements sociaux, syndicaux, violents, comme aujourd'hui.
Et je te coupe, tu dis depuis le début de la présidence de Monsieur Macron,
je vais y venir.
Est-ce que tu penses que c'est lié?
Non, je crois qu'effectivement, l'arrivée de ce jeune président, de ce jeune président qui, il faut bien le dire, est assez brillant dans sa manière d'être et de s'exprimer.
Est arrivé un peu sur un coup de Trafalgar aussi.
Arrivé au pouvoir dans des conditions tout à fait innovantes, pour ne pas dire inattendues. Personne n'imaginait qu'il serait à la fois d'abord candidat et ensuite gagnant d'une présidentielle qui, il faut s'en souvenir quand même, était pensée à l'époque par tous les éditorialistes et les hommes politiques d'ailleurs concurrents de Macron en question, qui était perçu, pensé, et dans laquelle il s'investissait de manière tout à fait classique. Hein, c'est-à-dire que tout devait se reproduire comme dans le passé.
Oui.
Quoi.
Et M. Fillon était élu dans un
c'est
fauteuil.
C'est ça, dans un fauteuil, et puis sinon Fillon, un autre. Quoi. Mmh. Donc, il a complètement renversé les codes, à la fois dans la manière, effectivement, d'agir avec la politique.
Et c'est vrai, en utilisant les réseaux
et
sociaux.
Et en utilisant, j'allais y venir, en grande partie, les réseaux sociaux, et en s'appuyant sur une base, je dirais, non pas idéologique, mais quasiment catégorie d'âge, qui manipule aujourd'hui les réseaux sociaux
effet boomerang là-dedans.
Alors justement, la caractéristique de notre époque, c'est que on est, et peu de, me semble-t-il, on n'en prend pas tout à fait conscience, c'est que l'on vit aujourd'hui, alors concrètement, une révolution numérique et aussi l'intelligence artificielle, non seulement dans l'économie, mais aussi dans la culture et dans la circulation de l'information et donc dans le débat politique et idéologique. Et on le sait bien, les réseaux sociaux, c'est de l'essence, quoi. L'indignation, la fureur morale, c'est de l'essence, et pardon, c'est du feu, et les réseaux sociaux, c'est de l'essence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit de produire par n'importe qui d'ailleurs, venant de n'importe qui et de n'importe où, il suffit de produire un tweet, un statut, et que sais-je encore, sur Twitter, sur Facebook ou sur un autre réseau social, pour que immédiatement la viralité du système. Produisent un effet de fureur, un effet de
d'abord ça met le feu, c'est un cocktail molotov,
exactement,
mais reproduit à l'infini.
Exactement. Et c'est d'autant plus inquiétant que souvent cette fureur et cette indignation morale se fait sous le couvert non pas de personnalités clairement affichées sur les réseaux, mais souvent, on peut pas dire toujours à partir de d'anonymes, c'est-à-dire que n'importe qui en fait peut produire n'importe quel ouvrir n'importe quel compte avec un pseudo et avec ce compte de pseudo sortir les plus
oui,
les
voilà.
plus et les, c'est là que voilà, les informations les plus fausses les plus les insultes les plus grossières en fait les attaques personnelles les plus violentes etc.
Et
etc.
C'est là que le bât blesse finalement on se réfugie derrière le masque derrière oui. l'anonymat.
Pourquoi? Parce qu'effectivement avant cette révolution numérique en fait cette révolution des réseaux sociaux comment se passaient les choses? Ben, tout simplement, c'était les grands médias, les médias classiques, hein, qui organisaient, qui régulaient l'information. Et que, par exemple, sur un phénomène ou une indignation morale, en fait, je ne sais rien, de type culturel ou moral, comme Timitou, en fait, hein, l'harcèlement sexuel des femmes dans le monde des médias, par exemple, hein, ou autre question. Et les médias classiques, d'abord, ils récoltaient l'information, ils vérifiaient l'information, et puis ils surtout, en fait, ils mettaient en contexte cette information dans ce système qui mettait en évidence la complexité effectivement de la situation
oui, qui et la relativisait aussi qui
dans là il n'y a pas dans les il n'y a pas de complexité en fait du tout en fait hein.
Ah oui.
Tout. C'est
blanc,
très simple.
C'est blanc ou
c'est noir, en fait.
Hein.
Tu es mon ennemi ou tu es mon ami. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Hein. Donc la complexité, la façon rationnelle de poser les problèmes en prenant le temps, effectivement, de les exposer de manière claire, c'est fini, ça. Hein. Et pour cause, sur les réseaux sociaux, enfin sur Twitter, par exemple, qui est le réseau social fréquenté par les hommes politiques, par les intellectuels de manière générale, c'est un nombre de mots limité qu'il faut produire. Donc forcément, avec ce nombre limité de mots, qu'est-ce qu'on vise?
Ah oui.
On vise l'émotion, oui, on ne vise pas la partie rationnelle du cerveau.
Et ça donc, ne facilite forcément, pas l'analyse et la réflexion.
Bien sûr que non. Et le drame, peut-être qu'on terminera là-dessus, le drame, c'est que les médias eux-mêmes, les grands médias...
Oui, maintenant, le reprennent.
Le reprennent.
Ça, c'est
reprennent,
extraordinaire.
Et un nouveau métier apparaît dans ces médias, c'est le métier de titreur. C'est-à-dire que le titreur en question du Monde et du Figaro ou n'importe quoi, quel est son but? Quelle est sa finalité à lui? C'est pas de synthétiser le contenu de l'article, c'est d'amener effectivement le lecteur, en fait, sur les réseaux sociaux, à lire effectivement ce titre, en fait, et non pas l'article. Pourquoi? Parce qu'effectivement... Cliquer sur un titre, sur le journal numérique du Monde ou de Figaro, c'est renforcer la capacité d'audience du média en question. Qui dit capacité d'audience dit publicité, en fait, qui va effectivement venir sur le média. Donc, on en est là.
Donc, les bonnes règles de base sont faussées.
Sont faussées complètement. Le drame, c'est que, enfin, pas le drame, moi je constate auprès de moi, en tout cas, chez des amis qui sont pourtant des garçons, en fait, et des filles tout à fait rationnelles, qui ont été construits, en fait, intellectuellement pour faire attention à ce genre de situation, ça marche parce qu'ils n'ont pas le temps effectivement de lire tous les articles détaillés en fait hein, du Monde, du Figaro, en fait voire de l'Humanité pour faire une balance entre les trois médias et se dire et chercher la vérité où se trouve le bon raisonnement logique fait et rationnel. Donc le titreur en question lui, ben, il est en compétition avec les hommes, les femmes qui sur les réseaux sociaux essaient de capter en fait l'attention, voire surtout l'émotion effectivement des internautes et ils font des titres qui ressemblent étrangement en fait, hein, au nombre de mots limités sur les tweets ou sur les réseaux sociaux comme Facebook. Donc on est dans une situation aujourd'hui intellectuelle et morale.
Et en application de la bonne vieille règle, plus c'est gros, mieux ça passe.
Bien sûr, pourquoi? Parce que mais ça c'est un classique, je dirais, qui a été démontré depuis l'Antiquité. Je ne sais pas si tu t'en souviens, en fait, de tes lectures, en fait, d'étudiants, en fait, Jean-Claude, mais déjà les grands tragiques grecs, bon, bien d'évidence que l'attention, effectivement, des auditeurs, hein, la mise en mouvement en fait des foules, c'était à travers deux notions en fait, deux sentiments. Hein, c'était la haine et la pitié. Mmh. Aujourd'hui, on voit bien comment ça fonctionne. Quoi. Aujourd'hui, sauf que c'est pas le théâtre antique là. Hein, c'est une immense toile effectivement dans laquelle sont mobilisées ces deux passions négatives que sont effectivement la haine et la pitié. Et quand ça se produit, ça se escopage là dans le monde en fait idéologique et politique, hein, dans un contexte de difficultés sociales en fait et politiques qui résulte de la transition écologique, de la transition numérique, avec tous les problèmes que cela pose, et on l'a vu à travers la mobilisation des Gilets jaunes, comme on le voit aujourd'hui, à travers la mobilisation sur une réforme importante que celle des retraites, ça peut produire des comportements et des situations catastrophiques. On voit même aujourd'hui des syndicats débordés par leur base, et voir des sections de la CGT, notamment, aller dans une centrale syndicale opposée à la CFDT, par exemple, pour couper le courant, entrer, violenter, etc.
Des trucs qui
totalement
inimaginables.
Totalement inimaginables il y a une vingtaine d'années. Donc, on en est effectivement à un point en fait, un point de cette transition-là et du débat politique extrêmement dangereux. C'est pour ça que, à mon modeste niveau, si tu le permets, Jean-Claude, en fait, mais et je le dis parce que nous avons un invité qui est un politique, hein, j'attends des politiques en question, non pas d'attiser le feu en question, en fait, à travers leurs militants, en fait, ou à travers certains discours, mais d'introduire un peu de rationalité dans la complexité de problèmes qui mérite effectivement qu'on tente de prendre ce qui est au fondement de la démocratie, l'électeur comme un être rationnel et capable de penser par ses propres moyens.
Voilà. Eh bien, vaste programme d'ailleurs pour les politiques. On verra tout à l'heure avec M. Sainte-Cluque ce qu'il en pense. Et on marque une première pause.